L'encyclopédie, Paris, deuxième partie. La place royale doit son commencement à plusieurs particuliers qui la firent construire en 1604. Les maisons qui la forment sont d'une même symétrie et elles ne furent achevées qu'en 1660. Cette place occupe le même lieu qui avait servi de jardin au palais des Tournelles, situé du côté du rempart où François Ier et quelques rois, ses prédécesseurs, avaient tenu leur cour. Catherine de Médicis le vendit à plusieurs particuliers qui élevèrent les maisons que l'on y voit à présent, et la rue des Tournelles, située près du rempart, en a retenu le nom. La place royale est parfaitement carrée et coupée de 36 pavillons élevés d'une même ordonnance. L'espace du milieu offre un grand préau enfermé dans une palissade de fer. C'est là qu'on a placé la statue équestre de Louis XIII. La figure du cheval est un bel ouvrage fait pour Henri II par Daniel Ricciardi, né à Volterre en Toscane et disciple de Michel-Ange. La figure du roi, faite par Biard, est bien éloignée de répondre à la beauté du cheval. On a dit à ce sujet que le cheval sur lequel est monté Henri IV, au milieu du Pont Neuf, conviendrait à Louis XII, XIII, et que celui de Louis XIII conviendrait à Henri IV. La Bastille était autrefois une porte de la ville. Cette forteresse, bâtie en 1360 sous le règne de Charles VI, est composée de 8 grosses tours rondes, jointes l'une à l'autre par des massifs de même hauteur et de même épaisseur, dont le dessus est en terrasse. Entre ces tours, on trouve une cour qui sert de promenade aux personnes qui sont les moins resserrées dans cette prison. La porte Saint-Antoine, qui est à côté de la Bastille et qui conduit au faubourg nommé Saint-Antoine, fut bâtie sous Henri II pour servir d'arc de triomphe à ce monarque. On l'a rouverte et élargie depuis peu d'années. Entre cette porte et le bastion, on a fait une rampe pour rendre l'accès du rempart plus facile aux carrosses qui ont au cours. Dans le faubourg Saint-Antoine est l'abbaye de ce nom. On commença de lever cette maison l'an 1193 et elle fut achevée sous le règne de Saint-Louis, qui assista à la dédicace de l'église avec la reine Blanche de Castille, sa mère. On voit dans la même rue la manufacture où l'on polit et où l'on étame les glaces du miroir. On les fond à Cherbourg et à Saint-Gobain. Un peu au-delà est le couvent des Picpus, qui fut commencé en 1594. Vincent Massard ou Mussard, parisien, en a été le fondateur et réforma le tiers-ordre de Saint-François, que l'on nomme ordinairement les pénitents, et qu'il était auparavant que pour les séculiers. Massard en fit une règle particulière et s'établit dans le village de Picpus, dont ces religions ont reçu le nom que le peuple leur a donné, malgré leur soin à garder celui de pénitent. En prenant le chemin de la ville, on passe devant une maison nommée Reuilly, dont Mabillon rapporte dans sa diplomatique que les rois de la première race avaient un palais en cet endroit-là, et que ce fut dans ce palais que Dagobert répudia Gomatrude, sa première femme, à cause de sa stérilité, et qu'il prit en sa place Nantilde, une des suivantes de cette reine. Il n'est resté aucun vestige de ce palais. La première chose remarquable que l'on retrouve en rentrant dans la ville est l'arsenal. Il fut bâti par Charles V en même temps que la Bastille. C'est dans ce lieu que l'on fondait autrefois l'artillerie pour la défense du royaume, et l'on y garde encore les poudres et les canons. Au milieu de ce château était une tour qu'on appelait la tour de Billy. Le tonnerre étant tombé dessus le 19 de juillet 1538, mit le feu à plus de 200 casques de poudre qu'on y conservait. Outre que cette tour fut ruinée jusqu'au fondement, la violence du feu fut telle que les pierres furent emportées jusqu'à l'église de Saint-Antoine-des-Champs et jusqu'à des endroits de la ville fort éloignés. Les fonderies furent bâties en 1549 par ordre d'Henri II. Conservons ici cette belle inscription qu'on lit à la porte d'entrée d'un bâtiment qui bientôt ne subsistera plus. Aetnae Canonico Vulcania tela ministrat, tela giganteos de bellatura furores. Les Célestins ont leur couvent tout proche de l'arsenal. Quelques auteurs disent que ce lieu avait été occupé auparavant par les carmes de la place Maubert, qui l'abandonnèrent afin d'être plus près de l'université où ils allaient étudier pour obtenir des degrés, le nommé Jacques Marcel ayant acheté cette place en 1318, y établit les Célestins nouvellement venus d'Italie, dans une haute réputation de sainteté de vie. Le roi Charles V leur donna de très grands biens, fit construire l'église et y mit la première pierre. Cette église est d'une structure tout à fait grossière. La paroisse de Saint-Paul, qui est celle de tout le quartier, était la paroisse royale du temps que les rois occupaient l'hôtel de Saint-Paul ou le palais des Tournelles. Le bâtiment de l'église, qui est d'une maçonnerie épaisse et gothique, fut élevé sous le règne de Charles VII. Assez près de là est le couvent des filles de l'Ave Maria, dans une rue nommée des Barrets. Ces religieuses sont de l'ordre de Sainte-Claire et vivent dans une très grande austérité, ne mangeant jamais de viande et ne sortant point de linge. Outre qu'elles vont nues, pieds sans sandales et sans aucune chaussure, elles ont l'étroite observance d'un silence perpétuel pour lequel le beau sexe n'est point né. On va de ce couvent-là au bord de la rivière, traverser le pont Marie, appelé ainsi le Christophe-Marie, qui en jeta les fondations en 1613. Le pont est de pierre de taille et composé de cinq arches, soutenues sur quatre piles et sur deux culées. Il est couvert de maisons occupées par différents ouvriers. Et il ne fut achevé qu'en 1635. Mais, soit par la faute de l'architecte qui avait mal construit la pile du côté de l'île Notre-Dame, soit par l'ébranlement que lui donna un trop fort débordement de la rivière, une partie de ce pont fut emportée la nuit au mois de mars 1658, et quantité de personnes y périrent. On a rétabli les deux arches, mais on n'y a pas élevé de maison. L'île Notre-Dame, où ce pont conduit, a pris son nom de l'église cathédrale dédiée à la Sainte Vierge, à laquelle cette île appartient en temps propre. Toutes les maisons qu'on y voit ont été bâties dans le dernier siècle. Ce n'était auparavant qu'une prairie assez basse qui servait de promenade au menu peuple. Toute l'île est revêtue dans son enceinte d'un quai solide de pierre de taille. Les rues qui partagent l'île sont droites et aboutissent à la rivière. On sort de cette île par le pont de la Tournelle, l'un des trois qu'on a construit pour y arriver. Il est de pierre de taille avec un trottoir de chaque côté pour les gens de pied. On lui a donné le nom de Tournelle à cause d'une tour carrée qui se trouve sur le bord de l'autre côté de l'île Notre-Dame et dans laquelle on enferme ceux qui sont condamnés aux galères, en attendant que le chêne parte pour Marseille, où ils sont distribués pour le service des galeries de des galères de Sa Majesté. La porte de Saint-Bernard, qui se trouve à peu de distance du pont de la Tournelle, a pris son nom du collège des Bernardins, qui est dans le voisinage. Cette porte toute moderne n'a que 8 toises de large. La rue de Seine, l'une de ce faubourg, conduite à celle de Saint-Victor, où l'on trouve l'abbaye de ce nom. Cette maison est fort ancienne. Louis le Gros, roi de France, y fit élever de grands bâtiments et lui donna des biens très considérables. Il lui fit construire une église en 1113, dans le même endroit où il reste encore une chapelle ancienne derrière le chœur. Guillaume de Champeaux, archidiacre de l'église de Paris, et depuis évêque de Châlons, fut le premier qui institua la congrégation de Saint-Victor sous le règne de Saint-Augustin. Les jardins de cette maison sont fort spacieux. Et ce qu'elle a de meilleur, c'est une bibliothèque, l'une des plus nombreuses de Paris. L'église de Saint-Victor fut relevée en 1517 sous François Ier. Elle n'est pas encore achevée. Au-delà de Saint-Victor est l'hôpital de la Pitié et celui de la Miséricorde. Après ces deux hôpitaux, on trouve le jardin royal des plantes. Louis XIII a établi ce jardin en 1326. Il est embelli de grandes serres chaudes et froides et d'un très beau cabinet d'histoire naturelle. On fait chaque année dans ce jardin des cours de botanique, de chimie et d'anatomie. On descend de là vers l'hôpital général appelé la Salpêtrière, vaste maison qui peut renfermer 4 à 5 000 personnes. Son église est dédiée à Saint-Denis. En montant un peu plus haut, au sortir de la Salpêtrière, on trouve une grande place où l'on tient le marché aux chevaux. La maison des Gobelins est presque la dernière du faubourg Saint-Marceau, lequel était un quartier entièrement séparé de la ville, dans le temps que Paris était moins étendu qu'il ne l'est aujourd'hui. L'église de Saint-Marcel, que l'on voit dans ce faubourg, a été fondée par Roland, comte de Bray, neveu de Charlemagne, qui fit beaucoup de bien aux chanoines qu'il y mit. Cette église était autrefois sous le titre de Saint-Clément, mais le corps de Saint-Marcel, évêque de Paris, ayant été trouvé, elle en prit le nom, qu'elle a toujours conservé depuis. C'est une des 4 collégiales dépendantes de l'archevêché. Pierre Lombard, surnommé le maître des sentences, est enterré dans le cœur de cette église. Les bacheliers en licence sont obligés d'aller assister au service solennel qu'on dit pour lui tous les ans. Et ceux qui manquent sont condamnés à une amende. Il est bon de connaître la durée et les folies humaines. Le couvent des Cordelières est dans ce quartier. Thibaut VII, comte de Champagne et de Brie, le fonda premièrement à Troyes, d'où il fut transféré à Paris peu de temps après Marguerite de Provence, femme de Saint-Louis, fit commencer l'église, et Blanche, sa fille, veuve du roi de Castille, qui y prit le voile, donna de grands biens pour l'augmenter. Ses religieux sont hospitalières et suivent l'ordre de Saint-François. Saint-Médard est la paroisse de tout ce quartier. On trouve ensuite l'église de Saint-André des Écossais, dans laquelle on a élevé un monument pour y mettre la cervelle de Jacques II, roi d'Angleterre. C'est une idée bien bizarre. Le quartier de l'université, l'un des plus anciens de Paris, occupe un très grand espace qui fait presque la 4e partie de la cité. Il en était même séparé autrefois, comme un lieu particulier, avec lequel la communication n'était pas tout à fait libre, parce que les écoliers faisaient souvent des tumultes qui n'étaient pas aisés d'apaiser. Philippe Auguste, avant son départ pour la Palestine, où il alla avec Richard, cœur de lion, roi d'Angleterre, pour faire la guerre aux Sarrasins, ordonna qu'on enfermât ce quartier du Muraille, ce qui fut exécuté en 1190. Il fut entouré de fossés profonds et de murs très solides, soutenus de tours d'espace en espace, avec des portes, qui étant autant de petites forteresses à la faveur desquelles on pouvait se défendre vigoureusement avant que n'eût inventé l'artillerie. Il ne reste plus rien de ces murailles, et on a comblé les fossés sur lesquels on a élevé des maisons. Le collège des Bernardins, qui a donné son nom à la rue, est d'ancienne fondation, appartient à l'ordre des Cîteaux. Et l'édifice de l'église est un des beaux gothiques qu'il y ait en France. En sortant des Bernardins, on trouve à main gauche l'église de Saint-Nicolas du Chardonnay, ainsi nommée à cause que le premier bâtiment fut posé dans un lieu inculte et tout rempli de chardons. Les chanoines de Saint-Victor, à qui ce terrain appartenait, le donnèrent vers l'année 1243 pour y bâtir une paroisse. Le séminaire qui est à côté de cette église est le plus ancien de tout Paris. À une petite distance est un autre séminaire, dit des bons enfants, dirigé par les Pères de la Miséricorde de Saint-Lazare. La place Maubert, que l'on trouve au bas de la rue Saint-Victor, a tiré son nom, suivant quelques historiens, d'Albert le Grand, qui fut en son temps la gloire de l'Université de Paris. On dit que ce docteur, après avoir enseigné à Cologne, vint ici continuer les mêmes exercices et que la classe, n'étant pas assez spacieuse pour contenir tous les écoliers qui le venaient écouter, il fut obligé de faire ses leçons au milieu de cette place, qui en a été appelée place Maubert, comme qui dirait place de Maître Aubert. C'est aujourd'hui un des marchés de la ville. Les Carmes, qui ont leur couvent dans ce lieu-là, ont été originairement fondés par Saint-Louis, qui les avait amenés de la Palestine. La reine Jeanne, femme de Philippe le Long, leur laissa de très grands biens par son testament de l'année 1349. En montant plus haut, on va au collège de Navarre, fondé l'an 1304 par la reine Jeanne de Navarre, femme de Philippe le Bel. La fondation de l'église de Saint-Étienne-du-Mont, située au-dessus de ce collège, est si ancienne qu'on n'en connaît pas les temps. De cette église, il y a un passage de communication dans celle de Sainte-Geneviève. Clovis, dit-on, son premier fondateur, la dédia à Saint-Pierre et à Saint-Paul, dont elle a longtemps porté le titre. Il y mit des chanoines séculiers qui demeurèrent jusqu'au XIe siècle. Comme leur conduite était très irrégulière, Louis le Jeune les obligea de vivre en communauté et de prendre la règle de Saint-Augustin. On fit venir 12 chanoines réguliers de Saint-Victor pour établir cette réforme, dont l'abbé suggère le soin et la règle de Saint-Augustin s'y est toujours conservée depuis dans toute sa pureté, en sorte que cette maison est devenue la première de cette congrégation en France. L'abbaye de Sainte-Geneviève a été souvent ruinée par les Normands et les Danois, dans le temps qu'elle était hors de la ville. Mais les Parisiens, dont le zèle a toujours été fort grand pour leur patronne, réparaient presque aussitôt les dommages que ces barbares y avaient causés. L'an 1483, le vendredi 7 juin à 9 heures du soir, le tonnerre tomba sur le clocher, bâti depuis plus de 900 ans. Les cloches furent fondues et ce clocher, qui était couvert de plomb, demeura consumé. Le corps de Sainte-Geneviève est derrière le grand autel, dans une châsse soutenue par 4 colonnes ioniques. Le tombeau de Clovis est dans le milieu du chœur. L'église de Saint-Hilaire, paroisse d'une partie de ce quartier, est d'une ancienne fondation. On va de là, dans la rue Saint-Jacques, qui commence au Petit Châtelet, à l'extrémité du Petit Pont. Le Petit Châtelet est une manière de forteresse antique, composée d'une grosse masse de bâtiments, ouverte dans le milieu, qui servait autrefois de porte à la ville, aussi bien que le Grand Châtelet, dans le temps qu'elle n'avait point d'autre étendue que l'île du Palais. Ce bâtiment fut réparé par le roi Robert. En montant vers la porte où finit la rue Saint-Jacques et l'église Saint-Séverin, fort ancienne, puisque le fondateur dont elle porte le nom vivait du temps de Clovis, qui le fit venir de Savoie pour le guérir d'une fièvre dangereuse, dont il le traita par des prières et il se rétablit. L'église de Saint-Yves est un peu plus haut. Elle fut bâtie en 1347 par une confrérie de Bretons qui était alors à Paris. En avançant dans la même rue, on trouve le couvent et l'église des Mathurins ou Trinitaires. Le couvent fut fondé par Saint-Louis et Robert Gaguin, général de l'ordre, fit bâtir l'église qu'on a embellie depuis quelque temps. On passe ensuite devant l'église de Saint-Benoît, dont on dit que Saint-Denis, évêque de Paris, a été le fondateur. Le bâtiment est fort simple et fort grossier. De l'autre côté de la rue se trouve le Collège Royal, qui doit sa fondation à François Ier. Les professeurs, au nombre de 19, sont gagés du roi et font une espèce de corps séparé de l'université à laquelle ils ne laissent pas d'être soumis. À quelque distance de là est la place du Puits Certain, au bout de la rue Saint-Jean de Beauvais. Ce puits fut fait vers l'an 1556 par Robert Certain pour l'or curé de l'église de Saint-Hilaire et nommé premier principal du collège de Sainte-Barbe. Cette église a été bâtie dans la censive du chapitre de Saint-Marcel. Et comme ce chapitre avait autrefois droit de justice haute, moyenne et basse dans tout ce quartier-là, c'était au puits Certain que se faisaient ordinairement les punitions corporelles en exécution des sentences de la même juridiction et principalement lorsque quelques criminels avaient été condamnés à mort. En rentrant dans la rue Saint-Jacques et montant un peu plus haut, on voit le collège du Plessis, qui est un des plus beaux de l'université, le cardinal de Richelieu ayant laissé une somme considérable pour le faire rebâtir. À 50 pas de ce collège, et celui qu'on appelait encore il y a 2 ans, des Jésuites, et qu'on avait nommé fort longtemps le collège de Clermont. Vis-à-vis est le grand couvent des Jacobins, nommé ordinairement les frères prêcheurs de l'ordre de Saint-Dominique. Au sortir des Jacobins, on vient à Saint-Jacques de Haut-Pas, paroisse de tout ce quartier. Le séminaire de Saint-Magloire, aujourd'hui gouverné par les pères de l'oratoire, est presque contigu à cette église. On trouve ensuite le couvent des Ursulines, celui des Feuillantines et celui des Carmélites. L'église de ces dernières est décorée de tableaux des plus grands maîtres, de la Madeleine, de Lebrun, de la Salutation angélique du guide, et toute la voûte de l'église est de champagne. Le Val-de-Grâce, un des plus superbes édifices qu'on ait élevé en France dans le dernier siècle, est situé de l'autre côté des Carmélites et occupé par des religieuses de l'ordre de Saint-Benoît qui avaient été fondées autrefois près du village de Bièvre en un lieu appelé le Val-Profond et fort incommode à cause des marécages. Elles se logèrent en 1621 au faubourg Saint-Jacques et la reine Anne d'Autriche, pour rendre grâce à Dieu de son accouchement de Louis XIV, après 22 ans de stérilité, fit jeter les fondements du bel édifice qui porte le nom du Val-de-Grâce. La coupole de cette église, peinte à fresque par Mignard, est d'une grande beauté. En entrant dans la ville par la rue d'Enfer, on trouve la maison des pères de l'oratoire appelée l'Institution, et fondée en 1650 par M. Pinette, secrétaire de Gaston de France, duc d'Orléans. À peu de distance de là, en descendant, est le couvent des Chartreux, de la fondation de Saint-Louis, qui leur donna le vieux château de Vauvert, habité, selon les historiens de ce temps, par les diables, en sorte que la rue en fut nommée la rue d'Enfer. Mais, suivant la vérité et les vieux titres dans lesquels on lit « via inferior », ces mots ne signifient autre chose que la rue basse, parce que cette rue était plus basse que la rue Saint-Jacques, qu'on appelait la rue haute, via supérieure. C'est aussi pour cette raison que l'église paroissiale de Saint-Jacques est nommée du Haut-Pas, à Balto-Passou. Les Chartreux occupent un terrain qui est plus grand qu'aucune autre des maisons religieuses de la ville et des faubourgs de Paris. Ce fut de cette maison que Henri III partit le 15 mars 1686 avec 60 des nouveaux pénitents dont il était l'instituteur pour aller à pied processionnellement à l'église Notre-Dame de Chartres d'où il revint 2 jours après. Après avoir passé par l'endroit où était la porte de Saint-Michel qui a été abattue, on entre dans la rue de la Harpe où se présente la Sorbonne. Vieux collège rétabli magnifiquement de fond en comble par le cardinal de Richelieu, et en conséquence, ce cardinal y a un tombeau magnifique, un des chefs-d'œuvre de Girardon. La bibliothèque de cette maison est une des plus belles de Paris. On y montre une traduction française de Tite-Live, manuscrite, dédiée au roi Jean et enrichie de miniatures où règne l'or, couleur très brillante, et dont on ignore la composition. Après qu'on en est entré dans la rue de la Harpe, en traversant la place de Sorbonne, on trouve le collège d'Harcourt, fondé en 1280 par Raoul d'Harcourt, chanoine de l'église de Paris. Plus bas est l'église paroissiale de Saint-Côme, bâtie en 1212 par Jean, abbé de Saint-Germain-des-Prés. Proche cette église est la maison de Saint-Côme, destinée à l'étude de l'anatomie chirurgicale. Dans la même rue de la Harpe sont les ruines du palais des Thermes, dont j'ai déjà parlé. À l'extrémité de la rue de la Harpe, en tournant à gauche, on entre dans celle de Saint-André-des-Arcs, où est l'église paroissiale de ce nom. Ce nom, autrefois, n'était qu'une petite chapelle au milieu d'un champ planté de vignes et d'arbres fruitiers. Quelques antiquaires croient que cette église a été appelée Saint-André-des-Arcs à cause d'un grand jardin qui était proche de là, où les écoliers allaient souvent s'exercer à tirer de l'arc. Des quatre portes par lesquelles on entrait de la ville dans le faubourg Saint-Germain, savoir la porte à laquelle on donnait le nom du faubourg, la porte Dauphine, celle de Bussy et de Nesle ayant été abattue, tout ce quartier est devenu un des plus grands de Paris et au-dessus des plus belles villes de France, tant pour la qualité d'hôtels magnifiques qui la composent que pour la multitude du peuple qui s'y rencontre. Ce quartier a pris son nom de l'abbaye royale de Saint-Germain-des-Prés, fondée par le roi Childebert, fils de Clovis. La réforme a été établie dans cette abbaye en 1631. La bibliothèque est une des plus belles du royaume. Cette abbaye était autrefois hors de la ville, exposée aux incursions des Normands, entourée de murailles qu'on a abattues pour y bâtir les maisons qu'on voit à présent tout alentour. Le palais d'Orléans, autrement nommé le palais du Luxembourg, parce qu'il est dans un lieu où était un ancien hôtel de ce nom, fait un des grands ornements du quartier de Saint-Germain. La reine Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, a fait bâtir ce palais de fonds en comble. La grande galerie a été peinte par Rubens, qui s'occupa pendant 2 ans à ce travail. Le petit hôtel de Bourbon est dans la rue de Vaugirard, qui passe devant le palais du Luxembourg. C'était autrefois l'hôtel d'Aiguillon, que le cardinal de Richelieu fit embellir par la duchesse d'Aiguillon, sa nièce. Tout proche est le couvent des religieuses du Calvaire, de l'ordre de Saint-Benoît, fondé en 1620 par la reine Marie de Médicis. Dans la même rue, on trouve le couvent des Carmes, des Chaussées, vis-à-vis des murs des jardins du Luxembourg. Il fut fondé en 1611 par les libéralités de quelques bourgeois qui donnèrent une petite maison située en ce lieu-là à des religieux carmes venus d'Italie pour apporter en France la réforme que Sainte Thérèse avait faite en Espagne de l'ordre du Mont Carmel. Ces bons moines n'ont pas mal prospéré. Le monastère des Filles du Saint-Sacrement, qui est dans la rue Cassette, a été fondée par Marguerite de Lorraine, seconde femme de Gaston de France, duc d'Orléans. Dans la rue parallèle, qu'on nomme la rue Pot-de-Fer, et qui aboutit dans celle de Vaugirard, se trouve le noviciat des Jésuites. Le grand autel de leur église est embelli d'un tableau de Poussin. L'église de Saint-Sulpice, paroisse de tout ce vaste quartier, était autrefois un bâtiment très serré dont on a fait une des magnifiques églises du royaume, mais avec de très grands défauts. Cette église, qui n'est pas encore finie, a été commencée en 1646, et Gaston d'Orléans y mit la première pierre. La maison du séminaire de Saint-Sulpice est tout proche de l'église. Le plafond de la chapelle a été peint par Lebrun. L'endroit où se tenait la foire de Saint-Germain, autrefois fameuse, était à l'extrémité de la rue de Tournon. Ce lieu consistait en plusieurs allées couvertes, disposées dans un carré de pure et vieille charpenterie, tout rempli de boutiques pendant le carême, de jeux, de spectacles. Les rues de cet emplacement, au nombre de 7, très pressées et très étroites, se coupaient les unes les autres. Mais charpentes, boutiques, marchandises et faits, tout a été consumé dans les flammes par un incendie fortuit arrivé le 17 mars 1762, c'est un grand reproche que peut se faire la police supérieure de cette ville. Le couvent moderne des Prémontrés est à l'entrée de la grande rue de Sèvres. Proche de là est l'hôpital des Petites Maisons, qui était autrefois une maladrerie et qui fut rebâti vers l'an 1557 par ordre de messieurs de ville. L'hôpital des Incurables est situé dans la même rue. Cet hôpital contient 10 arpents de terre et fut bondé l'an 1634 par le cardinal de La Rochefoucauld. Le couvent des Cordelières est dans la rue de Grenelle. Ces religieuses qui étaient auparavant dans la rue des Francs-Bourgeois ont acheté l'hôtel de Beauvais qu'elles ont accommodé à la meurnière manière. En continuant de marcher dans la rue de Grenelle, proche la rue du Bac, on voit une nouvelle et belle fontaine que la ville a fait construire en 1739 sous les auspices de M. de Maurepas et sur les dessins d'Edmond Bouchard, dont fameux sculpteur. L'hôtel royal des Invalides, décrit par tant d'auteurs, se trouve au bout de cette rue. Et au haut de la rue du Bac est le séminaire des missions dans les étrangères. Et du même côté de la mission est un monastère des filles de la Visitation qui sont venues s'établir en ce lieu-là en 1673 en quittant la rue Montorgueil où elles avaient une chapelle lorsqu'elles furent admises en 1660. L'hôpital des convalescents est de ce même côté. Il fut fondé l'an 1652 par Angélique Four, épouse de Claude de Bullion, surintendant des finances, pour 8 pauvres convalescents sortis de la charité qui peuvent y demeurer une semaine afin d'y établir leur force. On trouve ensuite le noviciat des Dominicains réformés qui ont fait bâtir dans leur terrain une nouvelle église. À l'extrémité de la rue Saint-Dominique, on voit l'hôpital de la Charité. Les religieux qui le gouvernent furent établis à Paris en 1662, et Marie de Médicis fut leur fondatrice. Près de l'hôpital est bâtie l'église et les infirmeries pour les malades, où chacun a un lit séparé, établissement sage et sans lequel toute infirmerie est honteuse. La rue de l'Université est fort longue et n'est appelée ainsi qu'à son extrémité du côté du Pré au Clair. Le long des hautes murailles de l'abbaye de Saint-Germain, on la nomme la rue du Colombier, à cause qu'il y avait autrefois dans cet endroit un grand colombier appartenant aux religieux de cette abbaye. Plus avant, au milieu, elle est appelée la rue Jacob, nom dont j'ignore la raison. La rue Mazarine est parallèle à celle de Seine. On la nommait auparavant la rue des Fossés du Nel. Et au sortir de la rue des Fossés Saint-Germain, où est le théâtre si médiocre de la Comédie française, on entre dans la rue Dauphine pour se rendre sur le quai des Augustins, qui commence au pont Saint-Michel et qui finit au pont Neuf. Cette rue, qui n'était auparavant qu'un grand espace rempli de jardins et de vieilles matières, au travers desquelles on la perça, fut appelée rue Dauphine, à cause qu'on la bâtissait dans le temps de la naissance de Louis XIII. À l'extrémité, il y avait une porte de la ville qui fut abattue en 1673. Les grands Augustins ont leur couvent sur le quai. Ils vinrent à Paris vers l'année 1270 sous le nom d'ermite de Saint-Augustin et furent logés d'abord près de la rue Montmartre dans une rue qui en a été appelée la rue des Vieux Augustins. Ces religieux s'établirent ensuite dans la rue des Bernardins, au lieu où est à présent l'église paroissiale de Saint-Nicolas du Chardonnay, et enfin ils s'associèrent avec les pénitents qu'on nommait Sachets, à cause qu'ils étaient vêtus d'une manière de sac, et Saint-Louis les avait omis en ce milieu-là, sur le bord de la rivière. Les Augustins, à qui ces pénitents cédèrent la place, pour se disperser dans diverses maisons religieuses, commencèrent à faire bâtir leur église, et ne fut dans l'état où elle est présentement que sous le règne de Charles V, dit le sage. Les assemblées extraordinaires du clergé se tiennent ordinairement dans les salles du monastère. Le collège Mazarin est dans l'endroit où était autrefois la porte de Nesle. C'est un collège très spacieux dont la bibliothèque est publique. Le tableau du grand autel est de Paul Véronèse, et les petits tableaux dans les ronds sont de Jouvenet. On voit ensuite l'église des Théatins. Ces religieux vinrent en France en 1644, et le cardinal Mazarin, leur fondateur, leur laissa en mourant 100 000 écus pour commencer leur église. Leur principal institut est de vivre des charités qu'on leur fait. Ils ont été nommés Théatins de Jean Carafe, évêque de Théâtre, qui institua leur ordre en 1524 sous le titre de clercs réguliers. Le pont royal, qui est voisin des Théatins, a été bâti en la place du Pont Rouge. Il n'était fait que de bois. Comme les débordements de la Seine l'avaient souvent emporté, Louis XIV ordonna que l'on en fît un de pierre, et les fondements furent jetés en 1685. Ce pont est soutenu de 4 piles et de 2 culées, qui forment 5 arches. Entre elles, et les 2 extrémités du même pont, sont en trompe pour en faciliter l'entrée aux carrosses et aux grosses voitures. Trottoirs des 2 côtés pour la commodité des gens de pied. Sa longueur est à peu près de 72 toises. Sa largeur est de 8 toises 4 pieds, desquelles on a pris 9 pieds pour chaque trottoir, sans compter 2 autres pieds pour l'épaisseur des parapets. Le pont neuf, situé vis-à-vis du pont royal, offre au milieu une entrée dans l'île du Palais. Henri III fit jeter les fondements de ce pont en 1578. Henri IV le fit achever en 1604. Sa statue équestre y fut érigée en 1614. Mais le tout ne fut terminé qu'en 1635. La figure du cheval est de Jean Boulogne, mais elle est trop massive et trop épaisse. La figure du roi est de Dupré. Après la statue équestre de ce grand prince, on trouve la Samaritaine au bout de ce pont, du côté de Saint-Germain-l'Auxerrois. Ce bâtiment, construit sous le règne d'Henri IV en 1604, fut détruit en 1712 et reconstruit sans ornement en 1715. Il contient une pompe foulante et aspirante pour élever les eaux et en fournir tant au jardin des Tuileries qu'ailleurs. La place Dauphine, qui est située à la pointe de l'île du Palais, vis-à-vis le cheval de bronze, est de figure pyramidale. Les maisons qui la forment furent élevées en 1606, peu d'années après la naissance de Louis XIII, et on la nomme place Dauphine, à cause du titre de dauphin que ce prince avait alors. On a ouvert de ce côté-là une entrée pour le palais. Cette place et les quais qu'elle a de chaque côté, savoir le quai des Orfèvres et celui des Morfondus, ont été pris dans un grand terrain qui faisait autrefois une partie des jardins du palais lorsque les rois y tenaient leur cour. L'église de Notre-Dame, métropolitaine de Paris, est très ancienne. Mais nous ignorons si la cathédrale de cette ville, dans les premiers temps, était Saint-Étienne-des-Grès ou Saint-Marcel. Nous savons seulement que, sous les enfants de Clovis, elle était à peu près où elle est encore aujourd'hui, et que, sous le règne de Louis le Débonnaire, il y avait, dans le parvis de Notre-Dame, du côté de l'Hôtel-Dieu, une église de Saint-Étienne où se tint un concile en 829. Il en restait encore des murs du temps de Louis le Gros, que ce prince, dans ses lettres au sujet des limites de la volonté des évêques de Paris, appelle Mures Veteris Ecclesiae Sancti Stephani. C'était probablement l'ancienne cathédrale appelée du nom de Saint-Étienne dans plusieurs auteurs. Cette partie de la cité ne s'étendait pas plus loin que Saint-Denis-du-Pas et l'archevêché, car ce qu'on nomme le terrain, connu du temps de Saint-Louis sous le nom de la Motte au Papelard, paraissent être formés des décombres et des immondices qu'occasionna la construction du vaste bâtiment de l'église de Notre-Dame. Quant à l'autre partie opposée, elle ne s'étendait que jusqu'à la rue du Harlay. Au-delà étaient deux îles, l'une plus grande vis-à-vis des Augustins, et l'autre plus petite au bout du quai de l'horloge. La position de ces deux îles était marquée dans un ancien plan de Paris en tapisserie, dont M. Turgot, prévôt des marchands, a fait l'acquisition pour la ville. Mais je reviens à l'église de Notre-Dame. Le roi Robert, ne se trouvant pas assez belle, entreprit de la rebâtir, mais elle ne fut achevée que sous le règne de Philippe Auguste. L'architecture en est toute gothique. Les dedans sont fort obscurs. Le chœur est orné de tableaux de la main de Jouvenet, représentant la vie de la Vierge, à qui l'église est dédiée. Le grand autel a été exécuté par les ordres de Louis XIV pour accomplir le vœu de son père. Les anges de métal de grandeur naturelle ont été jetés en fonte en 1715 par Roger Chabot. La croix d'argent et les six chandeliers sont de Claude Balin, fameux orfèvre. L'Hôtel-Dieu, situé auprès de Notre-Dame, et qui devait être hors de la ville, est le plus grand hôpital de Paris. On y a vu 3 à 4 000 malades, qu'on met alors 3 et 4 ensemble dans un même lit. Pratique d'autant plus funeste qu'elle multiplie les causes de mort pour ceux qui s'échapperaient s'ils étaient seuls dans un lit. On attribue la fondation de cet hôpital à Saint Landry, évêque de Paris, qui vivait sous Clovis II en 660. De l'autre côté de l'Hôtel-Dieu est un hôpital des enfants trouvés, rebâti dans ce siècle. Tout ce quartier qu'on appelle la Cité est rempli de rues étroites et de plusieurs petites églises fort anciennes. Le palais, qui a été autrefois la demeure de nos rois, fut abandonné aux officiers de justice par Philippe le Bel, qui voulait rendre le Parlement sédentaire. Ce prince, pour donner plus d'espace à l'édifice, fit bâtir la plupart des chambres et tout l'ouvrage fut achevé en 1313. Cependant, il est certain qu'il y avait de grands bâtiments avant ces temps-là. Clovis y avait tenu sa cour, et Saint-Louis, qui fit un plus long séjour que les autres, y avait fait faire plusieurs ouvrages. La grande salle a été bâtie sur le plan d'une autre très ancienne, dans laquelle les statues des rois de France étaient placées tout alentour. C'était le lieu où ils recevaient les ambassadeurs. J'y donnais des festins publics à certains jours de l'année, et même on y faisait les noces des enfants de France. Cette salle qui fut réduite en cendres au commencement du dernier siècle est présentement voûtée de pierres de taille, avec une suite d'arcades au milieu soutenues de piliers autour desquels il y a de petites boutiques occupées par des marchands. La grande chambre est à côté de la grande salle, et fut bâti sous Louis Saint-Louis, qui donnait des audiences publiques. Louis XII la fit réparer, comme elle est. La tournelle, qui est la chambre où l'on juge les criminels, est celle où couchait Saint-Louis. La Sainte-Chapelle est une église bâtie par le même roi, et dont l'ouvrage fut achevé en 1247. Saint-Louis établit un maître chapelain, qu'on nomme aujourd'hui trésorier, lequel a, comme les évêques, la qualité de conseiller du roi en tous ses conseils et le privilège d'officier pontificalement, à l'exception de porter la crosse. Cette église ne dépend que du Saint-Siège et assurément, elle devait ne dépendre que du roi. À quelque distance du palais, le pont Notre-Dame, le plus ancien, le premier qu'on ait bâti de pierre, il fut achevé, tel qu'on le voit à présent, en 1507, sur les dessins d'un cordelier de Vérone nommé Jonas Jucondus, qui entreprit l'ouvrage aux frais de l'hôtel de ville. Il est chargé de chaque côté de maisons ornées sur le devant de grands thèmes d'hommes et de femmes qui portent des corbeilles pleines de fruits sur leur tête. Au milieu de ce pont, on a dressé deux machines qui élèvent de l'eau de la rivière pour la commodité des quartiers de la ville qui en sont éloignés. Les vers suivants de Santeuil sont gravés en lettres d'or sur un marbre noir. Sequana cum primum originae labitur ubi, tardat praecipites ambitiosus aquas. Captus amore loci cursum obliguiscitur anceps, quo fluat. Et dulces nescit in urbe mons res. In quarios implens fluctus subeunte canales, font fieri gaudet, qui modo flumen erat. Anno 1766. Le petit pont, ainsi nommé, a été plusieurs fois détruit et refait. Les maisons qu'on avait bâties dessus en 1663 furent détruites en 1718, de sorte qu'on a rétabli ce pont sans y reconstruire de maison. À côté du pont Notre-Dame et sur le même canal, on trouve le pont au change, appelé de ce nom à cause qu'il y avait autrefois un grand nombre de changes ou de changeurs dans les maisons qui étaient dessus. Ces changeurs faisaient une manière de bourse dans cet endroit. Ce pont, qui était de bois, ayant été consumé en 1639 par un furieux embrasement, on le rebâtit solidement de pierres de taille et on éleva dessus deux rangs de maisons dont les faces sont aussi de pierres de taille. À l'autre bout du pont de change, au coin duquel des morts fondus, est l'horloge du palais sur laquelle on règle les séances du Parlement. Le pont Saint-Michel est aussi proche du palais, à l'opposite du pont au change. Il y a grande apparence qu'il a pris son nom de la petite église de Saint-Michel qui est dans l'enclos de la cour du palais vis-à-vis de la rue de la Calandre. Il a été construit sous le règne de Louis XIII, tel qu'on le voit aujourd'hui, et chargé de maisons de briques et de pierres de taille. Voilà, tout Paris parcouru. J'ai néanmoins oublié de dire dès le commencement que cette ville souffrit beaucoup en 845 et 856 par les courses des Normands, et qu'ils l'assiégèrent en 886 et 890. Elle fut encore ravagée sous le règne de Louis d'Outremer, et sous celui de Charles VII, les Anglais s'en rendirent les maîtres. Non seulement elle avait été presque toute brûlée en 585, mais elle éprouva un nouvel incendie en 1034 et une grande inondation de la Seine en 1206. Si maintenant quelques Parisiens désiraient encore d'avoir de plus amples détails sur le lieu de sa naissance, il peut consulter un grand nombre d'écrivains qui depuis longtemps se sont empressés de donner des descriptions prolixes de Paris et d'éclaircir toute son histoire.